Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence, à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Le mois de janvier s'est terminé avec la dernière représentation de la superbe production de La Passagère, l'opéra de Weinberg, au Théâtre du Capitole. Et avec le concert de l'Orchestre National du Capitole aux côtés du pianiste Nelson Görner, samedi à la Halle aux Grains. Deux événements sur lesquels nous allons revenir dans cette émission où nous avons le plaisir de recevoir un habitué de nos studios, le flûtiste et chef d'orchestre Jean-Marc Andrieux. Il est aussi le fondateur et le directeur artistique des Passions, l'orchestre baroque de Montauban. Et si Jean-Marc est l'invité d'honneur de ce numéro, c'est parce que l'orchestre qu'il a fondé fête ses 40 ans d'existence cette année avec deux concerts spécial 40e anniversaire le 13 février à Montauban et le 14 à Toulouse. Nous allons nous pencher sur ces 4 décennies d'histoire avec Jean-Marc Andrieux qui va nous présenter aussi le programme des concerts des 13 et 14. Présent également dans le studio de Radio Présence, Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. On enchaîne tout de suite en revenant sur l'actualité musicale de la semaine passée. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue aussi à vous deux. Merci d'être encore une fois au rendez-vous de Mélomanie. Comme je vous l'ai annoncé il y a quelques instants, nous allons revenir sur la production de La Passagère, dont la dernière des 4 représentations a été donnée jeudi à l'Opéra National du Capitole. C'était la création française de l'œuvre de Mieczysław Weinberg, et Toulouse peut s'enorgueillir d'en avoir été l'hôte, parce que, de l'avis général, que ce soit celui du public ou celui de la critique, ce fut une grande réussite à tout point de vue. Est-ce que c'est aussi votre avis, Serge Chosy ?
Ah, tout à fait. J'ai assisté à la dernière représentation. Et elle s'est achevée par une standing ovation, comme on dit, du public, ce qui signifie que le vocabulaire musical de cette œuvre, très actuelle, n'a pas déconcerté le public. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire et à souligner. Alors, il ne faut pas oublier que l'œuvre, si elle date de 1968, elle n'a été créée en public et avec mise en scène qu'en 2010, à Bregenz. Alors, évidemment, la vie de Weinberg n'est pas une très belle vie, hein. On sait que d'abord une grande partie de sa famille a été massacrée à Auschwitz, et puis en quittant l'Allemagne il s'est réfugié en Union soviétique où il a eu à se confronter à l'antisémitisme de Staline. Heureusement que Shostakovich l'a soutenu, l'a aidé jusqu'à la fin, donc c'était au moins un soutien amical très fort. Alors cette œuvre, pourquoi La Passagère ? C'est l'histoire d'une rencontre sur un navire qui va vers le Brésil avec un couple d'Allemands et une femme. Les deux se rencontrent et la première, qui est donc Lisa, l'Allemande, elle constate qu'elle vient de croiser une certaine Martha qui était prisonnière à Auschwitz, alors qu'elle, Lisa, était membre de DSS, donc aveu qu'elle n'avait pas fait à son époux. Et donc là, elle est amenée à le faire. Et donc, toute l'œuvre est une succession de flashbacks entre ce qui s'est passé à Auschwitz et ce qui se passe sur le bateau. C'est vraiment très, très intelligent et très bien fait. Hein,
comme, oui, parce qu'il faut parler de la mise en scène.
C'est une mise en scène extraordinaire. Alors, la mise en scène est de Jonathan Reitmeier. Vraiment, c'est stupéfiant. Parce que c'était un dispositif de décor tout en bois qui tourne, il y a un plateau tournant. Et on voit parfois ce qui se passe sur le bateau et quand même la plus grande partie du temps, ce qui se passe
dans le camp.
Dans le camp, donc avec...
avec ces décors tournants.
Ah oui, mais non, mais c'est impressionnant comme c'est bien fait. Alors, il faut dire aussi tout le bien que l'on doit accorder au metteur en scène, parce que non seulement il fait faire un beau décor, une belle mise en scène, mais des éclairages incroyables et un sens de la direction d'acteur qui est stupéfiant.
Ce qui n'est pas toujours le cas à l'opéra.
Pas toujours le cas. Hein. Là, pas de pause conventionnelle. Là, c'est vraiment très fort, avec une distribution très nombreuse. Hein. Alors Lisa est chantée par, on la connaît bien ici, Anaïs Morel, mezzo, Walter, lui aussi très connu, qui est le ténor Hiram Hernandez.
C'est le mari. Hein.
Exactement, il s'appelle Walter, donc. Et puis, celle qui chante le rôle de Martha. Alors, c'était la seule qui avait déjà chanté
oui, ce
rôle.
Spécialiste du rôle.
Voilà, spécialiste, c'est donc Nadia Stefanov. Et puis, Tadeusz, qui est le fiancé de Martha, qui meurt d'ailleurs dans le camp. Et Mikhaïl Timoshenko, un baryton magnifique qui a déjà chanté souvent ici à Toulouse. Et puis toute une distribution de jeunes prisonnières. En particulier, je voudrais souligner la beauté d'un air a cappella de Katia, chanté par Céline Laborie. C'était d'une émotion incroyable. Vraiment d'une beauté, avec une musique... Bon, en dehors de cette air a cappella, évidemment, une musique aiguë, une musique vraiment très, très dure, très...
Bah, presque dérangeante.
Ah oui, oui, oui.
Comme l'est le propos qui est rapporté du temps dans cette œuvre.
Et puis, il faut rappeler que cette œuvre, elle est quand même chantée en allemand, en anglais, en polonais, en russe, en tchèque, en yiddish et en français. Il y a quelques mots en français aussi. C'est évidemment surtitré, heureusement. Il faut aussi louer les interventions du chœur, magnifique, sous la direction de Gabriel Bourgoin, et du chef d'orchestre, Francesco Angelico, qui a fait un travail avec l'orchestre et que les musiciens ont beaucoup apprécié. Oui. Vraiment, j'ai discuté avec eux. Ils ont considéré que Angelico avait fait des merveilles, donc leur avait insufflé ce qu'il fallait pour cette interprétation. Vraiment une grande réussite. Hein.
Oui.
Alors il n'y a eu que 4 représentations parce que Christophe Gristy, le directeur artistique de l'orchestre, se méfie un peu de la.
Et oui, c'était une création française,
une œuvre
très sombre. Contemporaine.
Eh bien, finalement, les 4 représentations étaient pleines.
Et il y aurait certainement eu la place pour en faire au moins une de plus.
Ah oui, oui, absolument. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment une grande réussite qu'il faut vraiment saluer. Là.
Ben, moi, il y a des gens qui m'ont parlé, que ce soit des spectateurs ou des musiciens de l'orchestre, de chef-d'œuvre.
Ah oui, c'est absolument un chef-d'œuvre à la fois.
L'opéra lui-même, mais aussi la production.
La production, absolument. La production est stupéfiante.
Donc un pari gagné hein, pour Christophe Gristy qui a accueilli cette création française à Toulouse avec les risques que ça comprenait.
Oui.
Et puis comme vous l'avez dit, c'était une superbe réussite. Et pour revenir en musique sur cette production d'un passagère à l'Opéra National du Capitole, je vous propose d'écouter la soprano allemande Nadia Stefanov dans un désert que chante le personnage de Martha, celui qu'elle interprétait sur la scène toulousaine. Il s'agit de l'épilogue. Nadja Stefanov dans l'épilogue de La Passagère, l'opéra de Mieczysław Weinberg, dans lequel elle s'est produite avec bonheur, beaucoup de bonheur, à l'Opéra National du Capitole. Espérons que cette magnifique production va maintenant tourner en France, dans d'autres maisons d'opéra. Il est probable qu'à Toulouse, nous ayons l'occasion de la revoir dans les années à venir. Retour maintenant sur un concert qui a eu lieu mardi dernier, le 27 janvier à la Halle au Grain. Il réunissait le pianiste David Frey et le violoniste Daniel Lozakovic. Une belle affiche proposée par le cycle des grands interprètes. Le duo a donné des sonates de Bach et Beethoven. Vous avez assisté à ce concert, Serge, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Ah oui, beaucoup de bien, puisque c'était le 9e concert donc, de la 40e saison des grands interprètes. Et donc avec un programme intéressant, hein, bon, Bach, Beethoven, c'est du traditionnel en quelque sorte, je mets des guillemets là évidemment. Et deux artistes que l'on connaît bien à Toulouse, hein, puisque Daniel Lozakovic, qui est né à Stockholm, je le rappelle, en 2001, donc il est tout de même jeune, est quand même venu à plusieurs reprises à Toulouse, et même la première fois qu'il est venu, c'était un adolescent. Hein.
Je pense qu'il n'avait pas 15 ans.
Oui, oui, exactement. Ses derniers revenus à Toulouse, c'est 2023-2025.
Oui, donc, on le voit.
Donc on le voit très souvent. Mais c'est vraiment un bel artiste, hein, qui a travaillé avec Vladimir Spivakov notamment. Vraiment un grand artiste. Et puis David Frey, bon, c'est le Tarbet en quelque sorte bien connu, qui lui est de 1981, mais qui là aussi joue un rôle important dans le panorama et la génération des pianistes français actuels. Alors la première partie de cette soirée était consacrée à deux des six sonates dites da Chiesa, d'église, pour violon et clavier obligé de Bach. Et donc là, immédiatement, on a d'abord admiré, en tout cas c'était mon cas, la sonorité chaleureuse du beau Stradivarius de Lozakovic, donc de Daniel Lozakovic, et puis la beauté des phrasés du pianiste. Ils n'ont pas essayé de romantiser la musique de Bach, ce qui serait une erreur tout de même, et donc ils les ont joués, mais vraiment avec à la fois un détachement et une musicalité très belle. Alors la sonate en si mineur, la BWV 1014, ouvrait le concert. Et alors avec des alternances de méditation, hein, avec le violon lumineux de Daniel Lozakovic, et puis l'élégance des phrasés de David Frey. Quant à la deuxième de ses sonates, la Mi majeur BWV 1016, là c'était à la fois la sérénité du chant, on a l'impression que le violon c'était une voix qui chantait, avec des passages particulièrement virtuose, mais une virtuosité qui n'est pas démonstrative, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, mais qui est au service de la musique. Et puis enfin, toute la seconde partie était consacrée à la plus célèbre des sonates pour violon piano de Beethoven, la fameuse sonate à Kreutzer. Alors dédiée à Kreutzer, hein, pour des raisons opportunistes, mais qui ne l'a jamais joué d'ailleurs. Ce qu'en ont fait les interprètes, là, c'est tout à fait justifié, ils en ont fait une sorte de combat. Un combat non seulement entre eux, mais quelquefois la musique les oppose et quelquefois les réunit. Et ça, c'était très beau, très bien fait, avec par exemple l'introduction angoissante du premier mouvement, après la fameuse série de variations qui évoque un peu une confidence entre amis, hein. Et puis là, alors la course effrénée du final, là, c'était le déchaînement absolu qui a vraiment obtenu un succès formidable, qui les a fait revenir sur scène évidemment. Et donc le public a obtenu non pas un, mais deux bis, avec d'abord l'andante et lumineux de une sonate en fa de Mozart, et qui a été suivi de Prélude et Allegro dans le style de Pugnani de Fritz Kreisler, dans lequel la virtuosité s'exprime à fond, là, évidemment. Donc ça a été un beau récital de ce duo, et vraiment, ce sont deux grands musiciens.
Oui, puis ils sont très amis dans la vie, très complices.
Oui, très complices.
Le prochain concert du cycle des grands interprètes est prévu, je le signale, le samedi 21 février, date à laquelle la Halle au Grain accueille l'un des plus grands pianistes actuels, le russe Daniel Trifonov, qui va jouer des pièces de Taneyev, Tchaïkovski, Miaskovski et Schumann, programme original. Le dernier concert sur lequel nous souhaitions revenir avec Serge, c'est celui qu'a donné l'Orchestre National du Capitole, samedi à la Halle au Grain. On y a retrouvé un pianiste encore un très apprécié à Toulouse, et on a découvert une jeune chef qui, elle, faisait ses débuts dans la Ville Rose, Serge.
Et oui, et des débuts qui n'étaient pas prévus initialement, puisque la chef qui était invitée, tout d'abord, qui s'appelle Emilia Hoving, eh bien, elle attend un enfant, et donc elle n'a pas pu se déplacer, et donc elle a été remplacée par une une chef lituanienne, Giedrė, alors, Šlėkytė, excusez-moi, hein, mon lituanien n'est pas tout
Donc
à fait
vous vous améliorez petit à petit.
Vous croyez. Sa venue a entraîné également quelques changements dans le programme qui était prévu, puisqu'il était prévu du John Adams pour ouvrir le concert, et puis là on a eu une œuvre d'une compositrice autrichienne, Hanna Heisendel, et puis à la fin du concert, il était prévu les danses symphoniques de Rachmaninov, et nous avons eu la symphonie numéro 7 d'Antonin Dvorak. La première œuvre donc qui ouvrait, c'était donc une œuvre très contemporaine, hein, de Hanna Heisendel. Son œuvre est intitulée Héliosis. Donc on voit qu'il y a du soleil là-dedans.
Oui.
Effectivement, ça signifie en grec « coup de soleil », mais également en anglais. Et donc ça évoque cette chaleur qui coupe le souffle, engourdie, étourdie. Voilà ce qu'indique la compositrice. Alors c'est écrit dans un langage actuel. L'orchestre vraiment est sollicité dans ses retranchements.
Oui, il y a du volume.
Beaucoup de percussions. Et donc la chef l'a vraiment dirigée avec passion. C'est la compositrice elle-même qui signale, et c'était suivi par les interprètes, la matière rythmique explose. Donc ça dit tout sur cette œuvre-là. Ensuite, changement complet de tempérament, le concerto numéro 2 de Frédéric Chopin. Alors, n'oublions pas que c'est en fait le premier que Chopin a composé, chronologiquement. Hein. Bon, il avait à peine 20 ans à l'époque où il a composé. Et donc là, c'est le pianiste argentin Nelson Gurner qui a déployé vraiment un jeu d'une limpidité, mais c'était impressionnant, et d'une extrême beauté formelle, avec, là aussi, dans le maestoso initial, le piano qui se fait voix humaine, en quelque sorte. Donc, c'était très lyrique, avec de beaux élans, un larghetto qui est comme une succession de confidences, et enfin un allegro vivace qui résonne là comme une sorte de libération.
Oh, c'était magnifique.
C'était splendide.
Il a un son
phénoménal. Un son magnifique. Le public a manifesté bruyamment son enthousiasme, évidemment, et Nelson Gurner a offert un bis, alors très différent, particulièrement coloré, puisqu'il s'agit de Triana, extrait de la suite Iberia d'Isaac Albéniz, donc du soleil en musique en quelque sorte.
Oui, il l'a annoncé d'ailleurs lui-même.
Oui, il l'a annoncé,
son
oui,
bis.
Oui, oui, oui. Signalons qu'il parle parfaitement bien français.
Oui.
Donc,
il a des fans à Toulouse, hein, parce qu'il vient depuis longtemps à Piano Jacobin.
Ah, oui,
je pense
oui,
qu'il vient en moyenne tous les deux ans.
Ah oui, oui, absolument.
Donc il a vraiment ses fans.
Et là, il est sûr qu'il reviendra, c'est
oui,
certain.
Oui.
Et puis en deuxième partie, la 7e symphonie d'Antonin Dvorak. Alors là aussi, il y a des choses bizarres. Cette symphonie, elle a été publiée en tant que symphonie numéro 2, parce que les 5 premières étaient restées longtemps ignorées de Dvorak.
D'ailleurs, elles sont très peu jouées.
Oui, oui, et elles sont peu jouées. À part la symphonie du Nouveau Monde, celle qu'on joue le plus aussi, c'est la 8e, hein, évidemment. Et donc, on a eu droit à une belle démonstration de richesse des pupitres de l'orchestre. On sait que notre orchestre contient des solistes instrumentistes
oui, de grande valeur,
de grande qualité. Et donc, ils ont été ardemment sollicité par la direction, et donc avec les contrastes soulignés, donc, et puis un scherzo particulièrement séduisant, puisqu'il résonne un peu comme une référence au terroir tchèque, aux danses d'Europe centrale. Et puis le final, c'est un final d'énergie joyeuse, avec une belle vigueur de tous les pupitres. Donc un concert heureux en quelque sorte.
Et c'était plein, on ne l'a pas dit, hein,
ah,
mais c'était
absolument
plein.
Oui, oui, là, le grain avait fait le plein une fois de plus. Mais il faut dire qu'elle est très souvent pleine.
C'est
là,
souvent le cas. Et pour vous donner une idée de la prestation de Nelson Gurner, que nous avons salué samedi dernier à Allograin, je vous propose de l'écouter dans un enregistrement du bis qu'il a joué après le concerto numéro 2 de Chopin. C'était donc Triana, extrait de la suite Iberia d'Isaac Albéniz. Thank you. Triana, extrait de la suite Iberia d'Isaac Albéniz, joué par Nelson Gerner. C'était le bis que le grand pianiste argentin a joué samedi à la Halle aux Grains. Le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole est donné samedi prochain, le 7 février, au même endroit. Il est entièrement dédié à Francis Poulenc et nous allons bien sûr vous le présenter tout à l'heure dans notre agenda de la semaine. Une petite virgule musicale et on se retrouve dans quelques secondes avec Serge Ozy et notre invité d'honneur Jean-Marc Andrieux. A tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
C'est donc Jean-Marc Andrieux que nous avons l'honneur et l'avantage de recevoir aujourd'hui à Mélomanie. Je rappelle qu'outre ses grands talents de flûtiste à bec, Jean-Marc est également le fondateur et le directeur artistique des Passions, l'orchestre baroque de Montauban, une formation née en 1986. Autrement dit, elle fête son 40e anniversaire cette année, avec notamment ses deux concerts à Montauban au Temple de la Faculté à 18h30 le vendredi 13 février et à Toulouse à l'église Saint-Exupère le samedi 14 le lendemain à 18h30 aussi. On va y entendre des concertos pour flûte à bec, tiens donc, de Telemann et Sammartini. Jean-Marc, vous allez nous présenter ses œuvres tout à l'heure, mais je voudrais que nous fassions d'abord un peu d'histoire avec vous. Pourquoi et comment est né l'Orchestre des Passions il y a 40 ans et qui étaient ceux qui ont lancé cette aventure à vos côtés à l'époque?
Oui, merci Eric pour votre accueil. 40 ans, c'est effrayant, hein, le temps passe vraiment trop vite.
Ne dites pas ça, c'est aussi effrayant pour moi que pour vous. Hein.
Pour nous tous. En tout cas, c'est une aventure qui a commencé de façon un peu informelle, il faut le dire. J'avais créé en 85 un petit ensemble vocal, je m'intéressais à la direction de chœur, je chantais dans le chœur d'Alexis Bourbon à l'époque, et je faisais des études de direction de chœur, et pour avoir un instrument à portée de la main, j'ai recruté des amis dans les couloirs du conservatoire, des collègues professeurs au conservatoire de Toulouse, et puis on a monté un petit ensemble vocal, qui ma foi a bien démarré, et puis on a eu cette idée folle, si on peut dire, de monter deux messes brèves de Jean-Sébastien Bach, et pour cela, il nous fallait un orchestre. Donc, me voilà reparti avec mon petit détecteur de musiciens intéressés et curieux. Et dans les couloirs du conservatoire, encore une fois, des amis qui étaient d'accord pour se lancer dans cette aventure, d'essayer de jouer cette musique de façon un peu historiquement informée, comme on dit maintenant. Donc, ce sont des amis. La plupart, je les ai perdus de vue, c'est vrai que
mes premiers... C'était tous de votre génération, j'imagine.
Oui.
Tous et toutes,
parce qu'il y a des femmes. Il reste donc, que je vois toujours, c'est Nérine Bétoute, qui était premier violon pendant longtemps, Anne-Lisa Busquier aussi au clavecin à l'époque, aidée par Philippe Humeau, facteur de clavecin, qui nous avait prêté un clavecin. Et après ces messes brèves, qui ont été, on va dire, plutôt concluantes, les musiciens de l'orchestre m'ont dit « Hop, 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 on ne va pas s'arrêter comme ça, on a envie de continuer. Et qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors voilà, j'ai imaginé un programme de le premier concerto brandebourgeois, rien que ça. Il fallait être un peu fou quand même pour commencer par ça. Concerto pour clavecin et deux flûtes à bec de Jean-Sébastien Bach, qui est une transcription par Bach du 4e brandebourgeois. Et puis une deux suites de Purcell. Et nous voilà repartis à faire ce programme.
Donc au départ, il n'y avait pas de répertoire bien défini finalement.
Non.
En tout cas, il n'était pas entièrement baroque.
Non, on restait sur le... Mais vous avez un peu raison parce qu'en fait, on jouait sur un instrument moderne.
Oui,
et donc,
sur un instrument d'époque.
À un moment, en 91, on va en parler, quand on a été accueilli par la ville de Montauban, je leur ai dit, bon écoutez, c'est bien gentil, mais quand même, je préférerais qu'on joue sur des instruments d'époque, avec les cordes en boyau, les archers, tout ça. Ceux qui ont voulu continuer ont fait l'effort, puis il y en a qui ont abandonné le projet parce qu'ils ne se sentaient pas de passer à l'instrument baroque, ils avaient le droit.
Alors j'allais vous poser la question de ce qu'avaient été les grandes étapes de l'histoire des Passions Montauban, les principaux événements de cette histoire. Bon, il y en a une très importante, c'est le moment où vous vous installez à Montauban en 1991.
Oui.
Et c'est pour quelle raison? En fait, c'est lié à votre histoire personnelle.
Oui, tout à fait. Donc j'étais professeur au conservatoire à Toulouse et puis j'ai commencé d'enseigner aussi au conservatoire de Montauban. Et bien, on m'a proposé, après quand j'ai eu mon diplôme de directeur de conservatoire, m'a proposé de prendre la direction du conservatoire de Montauban en 91. À ce moment-là, j'ai rencontré évidemment le maire, Roland Garrigue, à l'époque. Et je lui dis, vous savez, j'ai aussi un orchestre baroque. Si, ah, ça m'intéresse. Et puis donc, on a été accueillis à Montauban à ce moment-là. Locaux, accueil, les locaux du conservatoire, le matériel, et puis une petite subvention qui nous a permis de commencer de nous structurer. Ça a commencé comme ça. Au début, on s'appelait Orchestre Baroque de Toulouse, OBT, et puis on est devenu Orchestre Baroque de Montauban. Et puis c'est en 2003 qu'on a changé de nom.
L'appellation Les Passions.
Et qu'on s'est appelé Les Passions. J'ai choisi ce nom au moment où on a été donc missionné par le ministère de la Culture à ce moment-là.
Alors, qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme grandes dates, comme grandes étapes dans le développement des passions?
Les grands souvenirs, 2000, la passion de Saint-Mathieu. Ça, ça a été vraiment
à
la Lograin. On a rempli deux fois la Lograin. J'ai toujours du mal à en parler sans être ému, parce que c'était vraiment un moment exceptionnel pour nous et qui a marqué les esprits. Ça a été heureusement enregistré. C'est un disque qu'on peut toujours acheter. C'est la plus belle version.
Évidemment. De l'univers, pas du monde, de l'univers.
Non, mais c'est vrai que quand je l'écoute, je me dis quand même, on était très très bons à l'époque. Puis après, on a eu des temps forts, évidemment. On a été invité au Palais Farnèse, on a été invité au Festival d'Utrecht.
Oui.
La découverte des œuvres de Jean Gilles, les trois enregistrements qui ont marqué aussi, qui ont été des moments importants.
Il y a eu des tournées.
Des tournées, alors quand je vois un petit peu, je ne me rends pas compte, mais on a visité 17 pays quand même, il faut le noter.
C'est pas donné à tous les orchestres.
Oui, ben oui, je crois, oui, oui. Et puis 15 enregistrements, 15 CD. Le temps passe très vite, je peux vous dire. Mais je me force un peu à me retourner sur ces souvenirs. J'ai un petit peu de mal à retrouver tout ça. J'ai toujours la tête plutôt tournée vers
l'avenir.
Oui.
On en parlera de l'avenir aussi. Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez aussi contribué avec les passions à faire revivre des œuvres et des compositeurs plus ou moins oubliés, comme Jean Gilles et son Requiem, ou plus récemment Mondonville et son opéra Daphnis et Alcimadure. Pour illustrer ce pan important de l'histoire des passions, nous allons écouter un extrait de la version que vous avez enregistrée du Requiem de Jean Gilles, c'est le Kyrie. Kyrie du Requiem de Jean Gilles, extrait du CD que vous avez enregistré avec les passions et le chœur Les Éléments il y a une quinzaine d'années. Alors Les Éléments, voilà une collaboration qui au fil du temps s'est prolongée et se prolongera peut-être encore. Bon, Joël Subiette, il était avec vous sur les bancs du chœur d'Alix Bourbon. Vous êtes connus au conservatoire tous les deux.
Tout à fait, oui. Et puis je lui dis encore merci de cette collaboration, ce chœur phénoménal. Un des emblèmes quand même de la vie culturelle toulousaine. Et on a fait du très très beau travail ensemble et j'espère que ça continuera.
Alors, on parlait de Jean Gilles, là, mais il y a aussi d'autres compositeurs baroques français que vous avez contribué à sortir de l'oubli. J'ai cité Mondonville, mais il y a eu aussi Blanchard et même Valette de Montigny.
Oui,
écoute encore aujourd'hui ces compositeurs. Ouais. Et c'est grâce aux passions qu'on peut encore avoir des enregistrements.
Effectivement, Mondonville, Daphnis et Alcimadure, je dois absolument rendre hommage à Jean-Christophe Maillard, musicologue qui nous a quittés, je pense, une dizaine d'années peut-être. C'est lui le premier, au début de l'orchestre, On se connaissait, bien sûr. Il me dit, tu sais, il y a un opéra en occitan, c'est pour toi, ça. Il faut absolument que tu le fasses. J'ai mis plusieurs années à y arriver, mais j'y suis arrivé. Et je dédiais l'enregistrement qu'on a fait de cet opéra. Jean-Christophe Maillard a dressé le catalogue des fonds musicaux anciens en Midi-Pyrénées à l'époque, notamment les fonds de rue du Périgord, de la Bibliothèque du Patrimoine. Extraordinaire corpus, 8000 partitions, c'est un fonds génial que j'ai un petit peu labouré avec Jean-Christophe à l'époque. Et notamment, il y a ces partitions effectivement de Valet de Montigny. Alors ça, je n'ai pas fait d'enregistrement. J'en ai restitué, mais notre ami Rolandas Mouleka, a fait un disque de Valet de Montigny.
Avec Antiphona.
Avec Antiphona, voilà, exactement. C'est de la très très belle musique. Et puis, effectivement, vous avez parlé de Blanchard. Ben, là aussi, c'est maître de chapelle de Louis XV. On l'a créé au Festival de Radio France à Montpellier, enregistré avec Radio France. C'était vraiment fantastique.
Et puis il y a une chose dont on doit parler aussi, bien sûr, c'est qu'avec les Passions et toute l'équipe des Passions, vous avez créé le festival Passion Baroque à Montauban. Ça sera la 12e édition en octobre prochain.
Oui.
Bon, ça, c'est encore une belle aventure.
Et oui, tout à fait. Là, il faut que je remercie toute l'équipe qui nous aide à Montauban. On attire un public régional. C'est vrai que c'est un très beau rendez-vous. J'invite aussi à venir jouer des amis, des musiciens qui sont quand même réputés. La dernière fois, c'était le Poème Harmonique, la dernière édition. L'Orchestre Baroque des Jeunes, européen.
Il y a eu le concert de l'Hôtel Dieu.
Le concert de l'Hôtel Dieu, ouais, exactement.
Café Thierry Marman a dû venir aussi.
Oui, tout à fait. Donc, et en plus,
Thomas Dunford.
Des jeunes, exactement. Et puis, on accueille aussi des jeunes musiciens régionaux du Conservatoire de Toulouse, de Montauban. Un petit ensemble calico, des amis aussi, des jeunes. Voilà, c'est un festival qui se porte très, très bien. Et merci encore à toute l'équipe, notamment ma collègue Sylvie Couralet qui assure la direction avec moi.
Et alors maintenant, vous repartez pour 40 ans, Jean-Marc Andrieux ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais je voulais avoir confirmation.
On re-signe pour
j'en
un bail.
Je ne doutais pas, mais je préfère l'entendre. Ça va mieux en 10 ans.
Un bail de 40 ans. Oui, mais on va tenir le coup, hein, on reste jeune.
Parmi les enregistrements que vous avez réalisés, les CD que vous avez fait paraître avec les Passions, il y a eu aussi un beau disque consacré à Marc-Antoine Charpentier. Et je tenais à en faire écouter un extrait parce qu'il est lié pour moi à un de mes plus beaux souvenirs de concert. C'était à l'église Saint-Pierre des Chartreux à Toulouse, il y a une bonne douzaine d'années, et j'avais entendu un magnificat qui m'avait mis les larmes aux yeux. le sublime Magnificat de Marc-Antoine Charpentier, extrait de la version enregistrée vers 2011 par l'orchestre Les Passions avec les chanteurs Vincent Lièvre Picard, Sébastien Aubrecht et Jean-Manuel Candenot. On en vient à ces deux concerts anniversaires des 13 et 14 février à Montauban et à Toulouse. Jean-Marc, avec quels musiciens allez-vous les donner et quelles œuvres allez-vous jouer à cette occasion ?
Oui, ce sera un quatuor à cordes. Je serai accompagné par un quatuor à cordes. Le principe, c'est de faire léger, transportable et mobile, quoi. Voilà. Donc, deux violons, alto et violoncelle. Gidon Gobert, qui assure le rôle de premier violon quand ce n'est pas Flavio Losco. C'est mes deux violonistes principaux pour le moment. Donc, Gidon Gobert, qui aime beaucoup venir jouer avec nous et qui est, il faut le rappeler, le premier violon des talents lyriques aussi. Donc, elle sera accompagnée par Josefa Jégar, qui est aussi sa collègue au pupitre, une excellente violoniste. Myriam Biscambrelin à l'alto et notre cher Étienne Mango au violoncelle. Donc, un quatuor, on va dire, de luxe. Il me fallait au moins ça pour ce répertoire qui est quand même virtuose, exigeant et qui déménage, on va dire.
Et donc Jean-Marc Andrieux à la flûte à bec.
Et donc, qui m'accompagneront, donc je jouerai ces concertos à la flûte à bec, concerto que j'adore, que je joue depuis longtemps et que j'aimerais bien offrir à notre public. Téléman, incontournable. Si on joue de la flûte à bec et qu'on ne joue pas du Téléman, on fait une grave erreur. C'est un de nos principaux compositeurs et on lui doit cette suite en la mineur qui est vraiment un chef-d'œuvre absolu et qui est l'équivalent un peu de la suite en si de Bach à la flûte traversière. Eh bien, nous, chers amis, flûtistes traversiers, nous avons la suite à la mineur de Téléman. Et puis un concerto de Téléman aussi en do majeur, en quatre mouvements, là aussi très virtuose et très démonstratif. Et puis j'aurai le plaisir, le bonheur de rejouer le concerto de Sammartini pour la flûte avec soprano.
Voilà, donc concerto en do majeur de Téléman, suite en la mineur pour flûte à bec et cordes du même Téléman, et puis le concerto en fa majeur pour flûte à bec soprano de Giuseppe Sammartini. On va vous faire découvrir la musique de Giuseppe Sammartini avec le premier mouvement allegro de sa sonate numéro 21, joué par Les Passions, et Jean-Marc Andrieux à la flûte à bec. Premier mouvement allegro de la sonate numéro 21 de Giuseppe Sammartini, joué par Les Passions et Jean-Marc Andrieux à la flûte à bec. Vous allez donc retrouver les mêmes pour les deux concerts qu'il donne le vendredi 13 février à Montauban, au Temple de la Faculté à 18h30, et le samedi 14 à Toulouse également à 18h30 à l'église Saint-Exupère, pour fêter les 40 ans d'existence de l'orchestre Les Passions. Serge Chauzy, nous avons d'autres concerts à annoncer cette semaine. Et tout d'abord, celui que donne la musique des parachutistes ce mercredi 4 février à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il y a trois œuvres au programme, mais toutes du même compositeur.
Eh oui, un compositeur espagnol qui s'appelle Oscar Navarro, dont le titre est « El Olimpio de los Dioses ». Bon, on comprend ce que ça veut
L'Olympe dire. L'Olympe des dieux.
Donc, c'est dans le cadre de la...
De la saison du Conservatoire de Toulouse.
Saison, voilà. Et donc, avec une musique des parachutistes qui officient ce jour-là, voilà.
Et il y aura en soliste, parce qu'il y a trois œuvres, en fait, hein, donc de Oscar Navarro, notamment son concerto pour clarinette, et la soliste sera Elsa Santurelli, qui est une enseignante du Conservatoire de Toulouse. Elle a la classe de clarinette. Et donc, on va découvrir cette œuvre, en plus donc de El Olimpio de los Dioses, l'Olympe des dieux. Et puis, il y aura aussi Donne Overture, du même Oscar Navarro, donc compositeur espagnol, né en 1981, donc pleinement contemporain. Voici un extrait de l'Olimpo de los Dioses d'Oscar Navarro qui va vous donner un bon aperçu de ce que vous allez entendre ce mercredi 4 février à Saint-Pierre-des-Cuisines dans le cadre de la saison de concerts du Conservatoire de Toulouse. Extrait de l'Olimpo de los Dioses d'Oscar Navarro, l'œuvre au centre du concert que donne la musique des parachutistes et la clarinettiste Elsa Santurelli ce mercredi 4 février à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Ce concert est gratuit, mais il faut réserver sa place sur le site internet du Conservatoire de Toulouse. Samedi 7 février, il y a deux concerts à noter sur vos agendas. Le premier proposé par l'orchestre En Harmonie, dirigé par notre ami Serge Krichewski. Il a lieu à 16h à la salle des fêtes de Seyss et son programme est plutôt français, mais pas seulement, Serge.
Ah, pas seulement, puisqu'il débute par du Bartok, les danses roumaines, puis tout de même la pavane pour une infante défunte, ça c'est évidemment du Ravel, puis une autre pavane, l'opus 50 de Fauré, puis de Chabrier, idylle, danse villageoise, et de Schubert, la 5e symphonie pour cordes, donc voilà.
Ouais, c'est un programme finalement assez varié.
Très ouvert.
Aussi dans les durées, il y a une symphonie et puis il y a des œuvres un peu plus courtes avec des ambiances qui peuvent être très différentes. Ce programme a déjà été donné la semaine passée, le 31 janvier, à la salle L'Odyssée de Balma, ce qui nous permet d'en écouter un extrait joué par les musiciens de l'Enharmonie. J'ai choisi la pavane de Gabriel Fauré. On écoute donc cet extrait du récent concert donné à Balma par les musiciens de l'orchestre sous la direction de Serge Krichewski.
Thank you.
La Pavane de Gabriel Fauré, interprétée par l'Orchestre en Harmonie, l'une des œuvres au programme du concert du samedi 7 février à 16h à la salle des fêtes de Seyss. Et puis donc, ce même samedi 7 février à 20h à la Halle au Grain, concert de l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Joseph Ponce, un habitué des lieux. Tout le concert est dédié à des œuvres sacrées de Francis Poulenc, ce qui implique la présence d'une soprano et d'un chœur, Serge.
Exactement, le chœur, bon, on le connaît bien à Toulouse, c'est l'Orfeón Donostiarra du Pays Basque, avec la soprano française Laurane Oliva, qui est toute jeune, qui a 25 ans, donc, et ils vont donner alors une partie de l'œuvre de Poulenc, qui a été qualifiée par Claude Rostand de moine et voyou. Eh bien là, on aura le côté moine, hein, puisqu'on aura le Stabat Mater, avec des pages vraiment magnifiques, hein, et le Gloria, donc les deux grandes œuvres religieuses, programme qui sera donné d'ailleurs le dimanche 8 février à 15h au Théâtre de l'Archipel de Perpignan, dans le cadre des concerts en région.
Et pourquoi Perpignan ? Parce que Laurane Oliva est originaire de Perpignan.
Exactement.
Elle a d'ailleurs été formée au conservatoire de Perpignan.
Voilà, exactement.
Et elle reviendra sur ses terres. Donc nous avons une catalane française avec, oui, Laurane Oliva. Nous avons un catalan espagnol avec Joseph Ponce. Et nous avons un chœur basque espagnol.
Voilà.
Pour le dernier extrait de cette émission, je vous propose d'écouter le poignant Stabat Mater Dolorosa qui ouvre le Stabat Mater de Francis Poulenc. C'est une version de l'Orchestre de Paris et de son chœur, enregistrée sous la direction de Paavo Jarvi. Stabat Mater Dolorosa, le chœur d'ouverture du Stabat Mater de Francis Poulenc, ici dans une version de l'Orchestre de Paris et de son chœur placé sous la direction de Paavo Jarvi avec le Gloria du même Poulenc. C'est l'une des deux œuvres au programme du concert de l'Orchestre National du Capitole ce samedi 7 février à 20h à la Halle au Grain avec la soprano Laurane Oliva et le chœur Orfeón Donostiarra, tous dirigés par Joseph Ponce. La billetterie est en ligne sur le site www.onct.com. radiotoulouse.fr. Également le samedi 7 février, l'Orchestre en Harmonie, dirigé par Serge Krichevski, est en concert à 16h à la salle des fêtes de Seyss. C'est un concert caritatif au profit de l'association Hôpital Sourire. Et il faut vous adresser à la mairie de Seyss pour réserver vos places à l'avance. Ce mercredi 4 février, la musique des parachutistes et la clarinettiste Elsa Santorelli sont en concert à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines, où ils donnent 3 pièces d'Oscar Navarro. L'entrée est gratuite, mais il faut réserver ses places au préalable en vous connectant à l'adresse www.conservatoire.toulouse.fr. Et je rappelle enfin les 2 concerts de l'orchestre baroque Les Passions de Montauban, avec Jean-Marc Andrieux en soliste à la flûte à bec, vendredi 13 février à Montauban, au temple de la faculté à 18h30, et samedi 14 à Toulouse, également à 18h30 à l'église Saint-Exupère. 2 rendez-vous pour fêter les 40 ans des Passions, où vous allez entendre des concertos pour flûte à bec de Telemann et Sammartini. La billetterie est en ligne sur le site www.les-passions.fr. Merci à mon complice Serge Chosy, le chroniqueur attitré de cette émission, et à Jean-Marc Andrieux, notre invité d'honneur. Bon anniversaire et longue vie aux Passions de Montauban. Je remercie aussi Coraline Camebrac qui a réalisé cette émission. Le podcast est dès maintenant en ligne, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous ceux et toutes celles qui ont écouté Mélomanie aujourd'hui. Excellente semaine musicale à tous.